Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Connecté en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
Michel Quilligagnon est président directeur général de l'Institut économique de Montréal. Il s'est fait accuser par Patrick Lagacé de La Presse d'être un anti-masque, d'être dans la gang des coucous qui veulent rien savoir. On veut faire le point avec ça. Bonjour Michel Quilligagnon.
Bonjour, Richard Martineau.
Alors, bon, l'Institut économique de Montréal, pour certaines personnes, c'est une gang de libertariens, donc c'est normal que vous soyez contre le masque parce que vous êtes pour les droits et libertés jusqu'au bout. Vous êtes des extrémistes de l'individualisme. C'est ça que certaines personnes pensent.
Peut-être. Et je veux dire, ceci dit, je n'ai aucune gêne à dire que pour moi, la liberté individuelle est une valeur importante. Et que le fait que c'est moi qui dirige cette organisation-là depuis 1998, ben forcément, ça se reflète sur l'organisation. Et je suis pas du tout gêné de ça, j'en suis même très fier. Mais ceci dit, on est capable de nuances. Et mon collègue Peter Saint-Onge, il y a plusieurs mois de ça, en fait, avait publié un article qui s'inspirait de l'Asie. Lui, c'est un gars qui a vécu en Taïwan pendant longtemps, qui disait que, tu sais, le masque peut être un outil utile en temps de pandémie. C'est pas une solution sacro-sainte, c'est loin d'être parfait, mais ça peut constituer un outil à l'intérieur de l'arsenal et que, somme toute, ça peut être une bonne chose. D'ailleurs, ce qui est ironique, c'est qu'à l'époque où mon collègue a publié ça officiellement dans les écrits de l'Institut, le docteur Arruda, lui, qu'on désigne toujours comme étant infaillible, disait en fait exactement le contraire. Il disait que l'usage généralisé du masque parmi la population hors milieu de santé était contre-productif. Il y a plusieurs vidéos sur Internet où on le voit dire ça. Donc, en fait, l'IEDM, strictement, si on parle sur la question du masque, était à l'avant-garde de la santé publique québécoise. Mais la question pour moi, Richard, si vous me permettez que je vous appelle Richard,
oui,
est beaucoup plus large que la question technique du masque. C'est la question de savoir est-ce qu'on peut débattre de façon civile et respectée et avec respect de différentes questions, y compris de la question du port du masque. Et Patrick Lagacé a signé dans La Presse une chronique qui, moi, en 21 ans de carrière, était une des plus dégueulasses et des plus vicieuses jamais écrites à mon endroit. Et pourtant, comme vous le savez, il y a quand même pas mal de monde qui m'ont tapé dessus au fil des ans. J'ai quand même la couenne dure. Mais ça, là, c'était sûrement dans le top 3 des plus dégueulasses.
Parce qu'on vous associe au coucou, c'est ça. Et là, on a reçu...
C'est ça, on m'associait, OK, sans le dire, mais avec un amalgame là assez habile, à des gens qui avaient fait des menaces de mort contre François Legault. Et ça, je le prends pas.
Et on a reçu Christian Saint-Germain, qui est un professeur d'éthique. On a reçu M. Martin Prévost, qui est un directeur du département de langue française de l'Université d'Ottawa. Ces deux-là disaient la même chose. Peut-on être critique vis-à-vis du gouvernement concernant la gestion de la crise sans nécessairement passer pour des complotistes et des coucous?
Exact. Et j'espère que la réponse est oui, parce que là, on focalise beaucoup sur la question du masque, OK? Et c'est normal parce que c'est une question d'actualité. Mais il y a une question dont on a très peu parlé, qui est que, sur le plan juridique, les autorités médicales et sanitaires ont le droit de détenir quelqu'un pendant 72 heures sans avoir d'ordonnance du tribunal. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, OK? Mais après 72 heures de détention préventive, les autorités doivent aller devant un juge, doivent aller devant une tierce partie neutre pour dire « voici pourquoi on détient madame, voici pourquoi on détient monsieur » et soit on le libère ou on demande la permission de continuer à le détenir plus longtemps. Bon, là, moi, ce que je comprends, puis malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la recherche ce matin. Je voulais le faire, peut-être que tes recherchistes pourraient le faire pour le bénéfice de tes auditeurs. Mais ma compréhension, c'est que ça vient d'être relevé. C'est-à-dire que les autorités maintenant peuvent détenir quelqu'un au-delà de la limite de 72 heures et apparemment sans limite, sans devoir passer devant un juge. Et ça, Richard, pandémie ou pas pandémie, COVID-19 ou pas COVID-19, ça me semble quelque chose d'extrêmement préoccupant dans une société
libre. Oui, mais ils peuvent le faire. Là. Peut-être que la loi leur permet ça, mais ils l'ont pas fait. Là.
Peut-être, mais quand on fait une analyse des politiques publiques, on fait pas une analyse, on fait une analyse, entre autres, juridique, et quand une loi est préoccupante, c'est la potentialité du pouvoir qu'il faut regarder. Puis moi, j'en suis même pas sur le fait de savoir si relever cette limite-là, je veux dire, est une bonne chose ou pas. On peut en débattre, mais je veux dire que c'est quand même quelque chose de sérieux que des citoyens peuvent être détenus indéfiniment sans jugement. Si ça s'avère exact, là, faut faire la vérification, mais c'est ce que je comprends. Alors, si c'est exact, ben franchement, c'est pas quelque chose de banal, là. On peut pas banaliser ça.
Une question théorique, parce qu'on est dans la théorie présentement. Si, effectivement, on trouve un vaccin et qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une bonne proportion de la population qui ne veut pas se faire vacciner, est-ce que puis que le gouvernement dit que pour la sécurité collective, on doit rendre le vaccin obligatoire, est-ce que vous, qui êtes un défenseur des droits et des libertés, vous allez prendre le bord des anti vaccin?
Ben, la réponse est plus nuancée que ça, dans le sens que ma réponse, c'est ça dépendra du contexte. Parce que c'est une chose que d'être contre les vaccins en général, toujours, ce qui ne m'apparaît pas une position raisonnable. Mm. Puis ensuite de ça, ce sera de voir quel sera le contexte précis de ce vaccin-là précis. Et moi, tu sais, Richard, je lis quand même des grands journaux internationaux à chaque jour, OK? Y compris le Wall Street Journal, qui est vraiment, probablement, un des journaux les plus solides et sérieux et mieux recherchés. Et il y a beaucoup, beaucoup de couverture depuis quelques mois sur le processus dans lequel les vaccins sont actuellement en train d'être développés. Et j'ai lu des gens dire que c'est un processus qui est tout à fait bien, puis on est à l'aise avec ça. Puis j'ai vu d'autres gens qui sont des spécialistes extrêmement sérieux, là, pas des coucous, des gens qui enseignent dans des grandes universités américaines, dans des aspects de la santé publique, et qui disent on va peut-être un peu trop vite et ça risque d'être un vaccin qui pourrait avoir des effets secondaires importants, notamment pour des gens qui auraient déjà eu le COVID auparavant. Ça pourrait créer ce qu'on appelle techniquement une tempête immunologique. Et là, le problème, c'est qu'on arrive, c'est qu'il y a bien des gens qui ont eu le COVID, mais que comme ils étaient asymptomatiques, ils savent pas qu'ils l'ont eu. Donc, moi, ce que je suis en train de répondre, c'est que, en principe, de s'assurer que la population prenne le vaccin est une bonne chose, mais il faudra être encore là intelligent, il faudra être capable de débattre quand le débat arrivera, avec nuance, sans s'échanger des insultes comme quoi que c'est soit des débiles ou des gens qui ont totalement raison.
Et voir si effectivement la santé publique, elle est vraiment en danger. Et en fait, Michel Kelly-Gagnon, c'est que d'un côté, il y a la sécurité collective, la santé collective, de l'autre, les droits et libertés. Faut trouver le juste équilibre. Et c'est pas toujours facile en période de pandémie. Il y a des gens qui disent, période de pandémie, quand la santé de la collectivité est en danger, il faut mettre les droits et libertés en veilleuse. Vous, ce discours-là vous inquiète?
Ben oui, mais il y a une autre chose qu'il faut réaliser aussi, c'est que les directives de la santé publique, c'est pas la parole, c'est pas la sainte parole de l'Évangile. Et ma preuve de ça est la suivante. Richard, aujourd'hui, en ce moment, là, il y a des pays très comparables dont les directions de santé publique ont des opinions différentes sur plusieurs questions, dont l'efficacité, par exemple, du confinement obligatoire généralisé. Il y a des santé publiques avec des spécialistes intelligents qui disent que c'est une bonne chose, puis d'autres qui disent que les effets pervers supplantent les effets positifs. De la même façon, puis on l'évoquait plus tôt en entrevue, la santé publique du Québec, ici, là, en la personne de M. Arruda, a changé d'opinion concernant des questions importantes, notamment le port du masque. Donc, si l'opinion de la santé publique change au fil du temps, si l'opinion des santé publique change selon les pays, ben ça prouve que c'est pas quelque chose qui est cristallisé. Donc c'est pas juste une question de droit collectif versus droit individuel, c'est une question à chaque fois de regarder les évidences puis de se demander est-ce que la santé publique a raison. Et parfois les mesures qui sont proposées pour protéger la population sont en fait pires que la protection qui en découle elle-même.
Et on revient à ça, là. On a le droit en démocratie de poser des questions sans nécessairement se faire reléguer dans le clan des conspirationnistes, des coucous. C'est une façon de dire, ferme ta gueule, t'as pas le droit de poser des questions. Et en terminant, vous avez publié un texte, Michel Quel-Gagnon, vous êtes pas tendre envers la presse, vous dites que c'est vraiment là comme le genre de porte-voix de la gauche woke radicale de plus en plus, là.
Absolument. Et pourtant, moi, je comprends qu'il y a une compétition là entre Québécois et la presse, mais au-delà de ça, moi, c'est un journal que pendant longtemps, j'ai trouvé quand même très correct. J'avais mes critiques, mais je trouvais très correct. Mais depuis 2, 3, 4 ans, là, il y a une dégradation à la grand V. Et ceux qui appuient ce journal-là, notamment financièrement, je pense, devraient soit demander un redressement ou cesser de financer cet organisme-là.
Et il reste au moins Francis Vallière. Francis Vaille, pardon.
Oui. Il est bien gentil, bien timide, mais il dit souvent des trucs intelligents, mais on espérerait en avoir plus qu'un dans toute une équipe d'un journal.
Tout à fait. Merci Michel Quel-Gagnon, président directeur général de l'Institut économique de Montréal. Merci, bonne journée Michel.
Merci à vous, Richard.